Apéro Polar.
La petite écuyère à cafeter.
De Jean-Bernard Pouy.
Avec Nathalie Bitan
et Laurent Lévy. Résumé des épisodes précédents.
Gabriel le couvreur, dit le poulpe, enquête à Dieppe sur le suicide de deux adolescents, Bérénice et Frédéric. La lettre d'explication qu'ils ont laissée éveille ses soupçons. Avec Cécile, jeune lycéenne diépoise, il découvre que Bérénice était enceinte. Une visite chez les de Longueville, parents de la suicidée, où il rencontre Madame de Longueville et son garde du corps, Esposito, lui confirme que quelque chose ne tourne pas rond. Après la visite, deux dangereuses bires tentent de tuer le poulpe en le précipitant du haut de la falaise. À peine rétabli, le poulpe poursuit l'enquête avec Cécile et apprend que Madame de Longueville, catholique intégriste, mène un combat anti-avortement et que monsieur fréquente la fine fleur de l'extrême droite européenne. Morceau de choix pour le poulpe.
Quatrième et dernier épisode.
À Dieppe, un père et passe.
Vous m'aimez bien quand même.
Je t'aime plus que bien, Cécile. Et je me souviendrai longtemps de toi et je te remercie.
Vous voulez toujours pas me dire qui vous êtes ?
Je t'ai dit, je suis le poulpe.
Le poulpe, tu parles d'une connerie. Un poulpe, c'est gluant et visqueux.
Ouais, mais quand ça colle sur quelque chose, ça lâche pas. Quand il arriva au hameau du Hamlet, tout était noir et sombre dans la vallée de la Scie. Il gara son crapaud à couvert sous les arbres et marcha sur une centaine de mètres le plus silencieusement possible. Il y avait deux fenêtres allumées sur la façade devant lui, au rez-de-chaussée. Gabriel s'approcha et s'empara d'une binette posée contre le mur. Il regarda à travers les carreaux. Le torero était assis à une table, seul, en train de manger. Gabriel sortit son pistolet et prit la binette. La porte n'était pas verrouillée. Le torero était toujours en train de manger, légèrement courbé au-dessus de la petite table. Gabriel vit deux fusils à gauche posés contre le mur, dont un fusil d'assaut, genre M16. La preuve que cette histoire avait grimpé, elle aussi, d'un étage. Le sentiment, c'était fini. Gabriel prit à deux mains la binette et la planta de plein fouet dans le haut du dos du torero. Celui-ci partit vers l'avant, renversant la table et se mettant à hurler comme un porc. Gabriel se mit face à lui et leva encore la binette au-dessus de la tête. Le torero hurla, tentant de ramper en arrière. Non seulement il venait de se prendre une banderille dans l'épaule, mais en plus, c'est un revenant qui la lui avait plantée. Il continuait à couiner, comme s'il était à la porte de l'enfer. Gabriel lui asséna un autre violent coup de binette sur le dessus de la jambe. Le torero était à présent adossé au mur, les yeux immensément écarquillés. Gabriel planta la binette dans le bois du parquet, sortit son pistolet et le planta sous l'œil du torero, en plein dans le creux, faisant gonfler le globe oculaire. Où il est l'autre ?
Il est à la Réunion. La propriété, la Réunion va durer tard.
Ils sont combien là-dedans ?
Une dizaine, plus les gens de maison.
Je vais dire une chose, t'es mort. T'es mort si tu restes une seule minute de plus dans la région. Tu vas sortir d'ici, tu te démerdes, tu changes de région, de bled, de pays. À partir de maintenant, tu as toute une armée avec des rasoirs à tes trousses. Le rouge-gorge, tu connais ? Allez, allez, on bouge, on file, on disparaît. Et Gabriel s'arrêta, regardant le type courir et vite disparaître dans la nuit. Il récupéra le fusil mitrailleur, vérifia le chargeur et ressortit à toute vitesse, courant vers la Twingo. Il démarra aussitôt et prit la route de Varangeville. Il fonça et déboula par l'arrière de la propriété. Sautant de la Twingo, le FM à la main, il shoota dans la porte de la maison du gardien, entra dans le couloir et grimpa à pieds joints sur le pieu. Esposito fit un looping digne du cirque de Pékin. Allez, allez, Espo, debout.
Bordel.
Ça va cogner.
C'est pas vrai. C'est un cauchemar.
Gabriel ne répondit pas, mais ouvrit la fenêtre. Plus loin, derrière les masses sombres du parc bien ordonné, la maison des deux baillis de Longueville était illuminée, tout le rez-de-chaussée. On voyait même des lustres, et la lumière parcheminée éclairait les carrosseries des bagnoles de luxe garées derrière la baraque, comme cachées, honteuses. Tu vas voir, Espo, on va se marrer.
Mais qu'est-ce que tu fous ?
Prends tes affaires et casse-toi. C'est un conseil, ça va saigner.
Mais qu'est-ce que tu fous ?
Ils m'ont énervé. Et puis, il s'est mis à tirer. Il n'y avait pas de balle traçante, mais Esposito, sans voix. Voyez les impacts sur les bagnoles, les gerbes d'étincelles quand les projectiles ricochaient. Par-dessus le crépitement de l'arme, on entendit les pare-brises exploser, les tôles claquer, et puis une BMW explosa.
Paf !
Tu verras mieux de tracer. Va bientôt y avoir du monde dans ta chambrette.
T'es vraiment une ordure.
Gabriel sortit dans le parc, traversant les spirées et se planquant dans les massifs. Il comptait sur plusieurs choses. La surprise et la panique. Un truc pas vraiment prévu par ses congressistes. Il venait là, dans ce petit village chic et tranquille, pour comploter à l'aise et pas pour qu'on les allume au M16 ou à la Kalachnikov. En plus, il ne pouvait pas appeler les flics s'ils avaient vraiment, comme le soupçonnait Gabriel, quelque chose à se reprocher. En même temps, des explosions et des tirs d'armes automatiques n'allaient pas passer inaperçus dans ce genre de paysage mondain. Une âme bien intentionnée allait appeler les autorités en hurlant que c'était la guerre dans les rodeaux. Donc, rigolait intérieurement Gabriel, le salut est dans la fuite.
Il fit la route vers Dieppe comme dans un mauvais rêve. Il n'y voyait plus très bien, comme si une bourrine opaque était tombée sur la ville, profondément endormie. Il était au moins 2 heures du matin, il n'y avait plus un chat dehors, même crevé. Soucieux, il ne prit pas l'ascenseur de l'hôtel et grimpa les 3 étages sans faire plus de bruit qu'une libellule se posant sur une moquette de soie. Il resta un long moment dans le couloir où donnait sa chambre, puis il glissa jusqu'à la porte, son pistolet à la main. Le silence était total. Sur la poignée, il y avait l'affichette priant de ne pas déranger. Un tueur était là à l'attendre, mais un tueur maladroit, semant indice sur indice, comme s'il voulait prévenir Gabriel de sa présence. Rien ne collait. Ou bien ces types étaient des pervers, ou bien c'était des amateurs. Alors, comme il n'en pouvait plus, comme il aurait pu s'endormir là, dans le couloir, à même le tapis, Gabriel ouvrit la porte à toute volée et sauta dans la chambre, le beretta en avant, prêt à cracher. Cécile était dans le lit et se retournait dans son sommeil. Il vit son dos, nu et pâle, et ses 2 fesses, petites comme des oranges. La cerise sur le gâteau. Un malheur n'arrive jamais seul. Mieux vaut prévenir que guérir. Un tien vaut mieux que 2. Tu l'auras dans l'os. Au lieu de réviser ses proverbes, Gabriel enleva sa veste, s'approcha de la jeune fille, la huma, son sommeil sentait bon. Il haussa les épaules et se déshabilla, chercha une couverture à un oreiller dans un placard, s'allongea sur la moquette et s'endormit presque immédiatement. En pleine nuit, ce devait être même presque le petit matin, une lueur bleu sombre venant de la mer éclairait à peine les peaux. La jeune fille le réveilla d'une curieuse façon. Elle s'assit sur lui. C'est pourtant simple. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Je m'incline. Mais si vous voulez, vous n'aurez même pas à le dire. Je le sentirai. Bien évidemment, ces simples mots émurent Gabriel au plus haut point. Elle ne bougeait pas, comptant sur son poids. D'un mouvement gracieux, elle enleva son t-shirt et il devina ses 2 petits seins ronds et pointus à la fois. Dans sa tête, il faisait tout pour ne pas se relâcher, mais va essayer de penser à la Bosnie quand on a sur soi nudité contre nudité, poil contre poil, chair contre chair, une jeune fille merveilleuse dont le jour de plus en plus naissant éclairait les taches de rousseur. Et cet éparpillement de petites étoiles, ce sable collé naturellement à la peau, Cécile en avait partout jusque sous le bout de la poitrine. Et le sang affluait en masse dans le promontoire coincé sous la petite falaise blanche. Et la falaise le sut, et elle se mit à rire clairement, d'un petit rire cristallin tellement diaphane, tellement sans arrière-pensée que c'en était un plaisir. Et que ça y était, le plaisir était en bonne voie. Et dans les étreintes qui suivirent, même si Gabriel avait voulu être d'une douceur quasi paternelle, Cécile lui montra qu'elle n'était pas sa fille et qu'elle n'avait aucun respect pour ce père-là. Ce qu'ils firent, c'était terrible, et simple à la fois. Simple parce que ce n'était pas le moment d'inventer quoi que ce soit. Terrible parce que l'émotion n'avait plus de nom. Pleine de lui, elle se mit à rayonner, parvint à fixer ses yeux à ses yeux et des milliers de petites taches de rousseur se mirent à luire dans la pénombre.
Tu es sûr qu'ils ne se sont pas suicidés ?
Pratiquement.
Qui les a attachés sous le train ?
Je sais pas, un tueur aux ordres. Un homme de main quelconque qui est sans doute probablement à l'étranger.
Quelqu'un d'embauché par ses parents ?
Je sais pas, ça paraît quand même dément. Une mère catho-intégriste ne peut pas envoyer sa fille à la casserole comme ça.
Faut aller lui demander.
C'est pas si simple, petite fille.
Je veux bien dire que j'étais avec toi toute la nuit. Mais en contrepartie, on va aller là-haut. On va tenter de voir la mère de Longueville. Il n'arrivera rien. Je serai témoin de tout.
Tu me protégeras ?
Oui.
Tu me couvriras ?
Oui.
Eh ben vas-y, entraîne-toi. Ils arrivèrent à Varengeville vers 9h du matin.
Je te tiens et je te tiens fort. Mais je ne te retiendrai pas, je suis pas conne, n'aie pas peur.
Moi, j'ai pas peur de toi, Cécile.
Alors, tu t'appelles comment ?
Jérôme. Jérôme le prieur. Ils garèrent la Twingo près d'un carrefour fleuri. Valait mieux ne pas trop se faire remarquer. En effet, quand ils débouchèrent sur la route menant à la propriété, ils virent un paquet de véhicules bleus, d'un bleu qui n'était pas vraiment celui de la mer, mais de ce bleu un peu profond qui sont la cavalerie, l'armée et les gendarmes. Les voisins avaient dû se plaindre, témoigner et affirmer que des bagnoles qui explosent en pleine nuit, que des tirs de mitrailleuses et que des allées et venues intempestives à 3h du mat ne devaient ni être des fins de partie de bridge, ni la terminaison obligatoire d'une fête de famille, genre communion ou anniversaire du pépé. Quelques voitures banales étaient garées pas loin du portail, et Gabriel remarqua sur le pare-brise arrière de l'une d'elles un autocollant des informations diepoises, la feuille de chou locale. Il lâcha la main de Cécile. C'est pas le moment de te retrouver en photo dans le canard à la page que font nos princesses.
Je m'en fous, j'ai rien à cacher. Notre amour peut éclater au grand jour.
Déconne pas, Cécile. J'ai pas envie d'avoir tous les punks de Dieppe à mes basques. Les voitures de gendarmerie démarraient les unes après les autres. Le portail de la propriété était grand ouverte. Gabriel voyait de l'animation sur le perron. Il aperçut même Esposito qui baladait sa carcasse avec un entrain admirable, comme s'il transbahutait des enclumes, mais ne remarqua personne qui ressemblait aux visiteurs de la veille. Il vit même des enfants assez grands, des sœurs et frères de Bérénice sans doute. Il aperçut du côté du jardin Madame de Longueville en grande conversation avec un gradé et deux types en civil. Des types DRG à tous les coups. Gabriel avait un don incroyable pour les repérer, ces espions improbables. Ça lui avait permis de durer jusque-là. Et puis, normal, ils se sont fait repérer. Un homme marchant à grands pas s'est précipité vers eux. Pendant un court instant, Gabriel chercha à se barrer, mais il reconnut le rédacteur en chef de la Vigie, journal local, celui qui l'avait interrogé, celui à qui il avait piqué la copie de la lettre d'adieu des deux jeunes suicidaires. Il venait sans doute lui demander des comptes, et avec toute la flicaille dans les parages, pas question de lui en mettre une et de se tailler à toute blinde. Mais non. Le type souriait de toutes ses dents. Il regarda Cécile se demandant un instant qu'est-ce qu'il pourrait tirer de cette curieuse association entre le CNRS et la jeune fleur lycéenne.
Ah, monsieur Wagsman.
Wagsman, Jérôme Wagsman. Je vous présente Cécile, une amie de Bérénice.
Bonjour. Bien sûr, ça ne vous intéresse pas et ce n'est pas vraiment de votre ressort, mais c'est incroyable à tout à coup tout ce qui se passe.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Ah, mais c'est incroyable. Hier, il y a eu un commando anti-IVG à l'hôpital. Madame de Longueville est plus ou moins impliquée. Plusieurs membres des croisés font partie des nombreuses associations qu'elle dirige. Des plaintes ont été déposées, ça va cartonner. Et puis cette nuit, il s'est passé des trucs bizarres. Coup de feu, explosion, tohu-bohu. Les voisins ont immédiatement prévenu les autorités. Des protestants sans doute trop contents.
Pourquoi vous dites ça ?
Ah ben, vous savez, à Varengeville, il y a des luttes intestines. Les deux baillis de Longueville sont des catholiques assez intégristes. Et ici, il y a une HSP assez puissante. L'édit de Nantes n'est pas vraiment passé sur les falaises.
C'est passionnant la vie de province.
Ouais.
On n'a pas ça, nous, à Paris.
Les gendarmes ne disent pas grand-chose ou alors ils balancent des infos compte-gouttes. Mais comme je les connais bien, j'ai pu savoir qu'il y a enquête. Que des types ont été bloqués sur la route. Des étrangers genre partis d'extrême droite. Monsieur de Longueville est en ce moment entendu à ce propos. Il paraît qu'il y aurait eu une réunion du genre, comme on dit, faction.
Oh, mais c'est incroyable.
Ouais, des flamands du Vlam, je sais pas quoi, Et des angliches aussi. Enfin, je vous dis ça, mais personne ne sait vraiment.
Attendez. Vous avez parlé de coup de feu, mais alors, qui a tiré sur qui?
Ah, là, on ne sait pas. On ne sait pas, personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des impacts de gros calibre partout derrière la maison. Et je les ai vus. Alors...
Cécile se mit à regarder intensément Gabriel, comme s'il lui apparaissait tout à coup sous un genre nouveau, avec une autre casquette. Comme si elle se rendait compte qu'elle avait baisé avec un mec du genre de Terminator.
Bon, bah c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille. Que j'écrive un article qui rassure et qui inquiète, qui cache et qui révèle, qui amuse et qui obsède. Un peu tout ça en même temps. Tu parles d'un foutoir.
Bon courage.
Le CNRS maintenant?
Oui, bon...
Vajman le prieur, ça c'est un nom.
Cécile, va m'attendre à la bagnole.
Plutôt crever.
Cécile, va m'attendre à la bagnole ou je te cogne la gueule. Le ton brusquement changé. Sa froideur, son style coup de fouet avec la syllabe qui claque, impressionnèrent la jeune fille qui partit à reculons en voyant Madame de Longueville s'arrêter sur le devant de son portail, fixant avec appréhension Gabriel qui faisait son matois de l'autre côté de la rue. Ils s'observèrent longtemps comme ça, presque une minute, comme s'ils s'étaient reconnus et que tout devait passer par cette rencontre. C'est Gabriel qui se décida à briser cette glace qui pouvait se transformer en miroir. Il traversa la rue. Le visage de Madame Yvonne de Bailly de Longueville était blanc, crayeux. Ses yeux ressortaient d'autant plus sous le front solaire. Mais le regard était toujours dur et déterminé.
Je ne sais pas, monsieur le prieur, quelle est votre part dans toute cette magouille destinée à nous abattre, nous et notre famille.
Ma part ?
Écoutez, vous venez l'autre jour m'insulter dans ma propre maison. Ensuite, je sais, et veuillez s'il vous plaît ne pas me contredire, que vous étiez à l'hôpital lors de l'intervention des combattants pour la vie. Cela fait beaucoup, beaucoup trop. Que voulez-vous, monsieur ? Je ne sais même plus qui.
Je veux savoir qui a assassiné votre fille Bérénice et son ami Frédéric.
Mais en quel honneur ? Et puis vous êtes fou de croire que quelqu'un ait pu faire quelque chose de si monstrueux ?
Ouais, fou de penser que c'est quelqu'un que vous connaissez et qui vous connaît.
Vous êtes malade. Hein ?
Votre fille était enceinte.
Vous croyez qu'une mère ne le savait pas ?
Mais elle voulait avorter et ça, c'était pas vraiment votre truc.
Vous avez raison. J'ai tout fait pour qu'elle n'avorte pas et qu'elle amène à notre maison un autre enfant qui aurait été aussi bien accueilli que les autres.
La façon dont vous dites ça, c'est une horreur. Aussi bien accueilli...
N'importe comment, la question ne se pose pas. Je n'ai pas réussi à la convaincre. Et je lui ai donné une autorisation pour prendre rendez-vous à l'hôpital. Tout le monde peut vérifier.
Madame de Longueville, on a assassiné votre fille.
Au revoir, monsieur le fou, merde.
Vous avez accordé votre autorisation à votre fille. Tout en organisant un commando à l'hôpital le même jour. Croyant ainsi empêcher un acte médical que vous refusez de toutes vos tripes, puisque vos sbires sont prêts à aller en tôle pour ça.
Vous êtes complètement idiot. Ma fille s'est suicidée une semaine avant.
Alors écoutez-moi bien. Vous avez accordé votre autorisation à votre fille, non par bonté d'âme, mais parce qu'elle vous faisait un chantage. Si vous ne lui accordiez pas cette liberté légitime, elle vous a sans doute menacé de révéler à ses copains des militants gauchistes, comme vous les appelez, que vous organisez des parties fines avec tout le gratin de l'extrême droite européenne dans votre propriété bien tranquille. Alors, vous avez cédé, tout en espérant dans votre petite tête de salope qu'un commando comme celui de l'autre jour pouvait empêcher ce que vous considérez comme un crime. Ah, après le suicide, impossible de remettre l'opération anti-IVG. Vos troupes n'auraient pas compris. Ils ne devaient même pas être au courant que votre fille était au nombre des patientes. Jusque-là, je sais que c'est vrai, il n'y a pas de problème. Jusque-là, vous ne risquez pas grand-chose.
C'est du délire.
Non, pardon. C'est votre délire. Je continue. C'est là que je ne sais pas quelle est votre place, madame.
C'est-à-dire ?
Eh bien, Bérénice avait promis, malgré le terme de votre accord, de révéler quand même vos activités, une fois qu'elle aurait subi sa petite intervention. Je le sais par un de ses informateurs, quelqu'un du scalp. Par haine familiale, par vengeance, par haine de ce que vous vous apprêtez, je vous t'affaire à construire. Quelqu'un l'a su. Quelqu'un faisant partie de ce joli monde que vous recevez chez vous. À mon avis, il doit y avoir une balance au scalp. Ou quelqu'un d'infiltré. Et on a donné l'ordre que Bérénice et Frédéric ne parlent pas.
C'est impossible.
Ce n'est probablement pas vous, mais vous devez sans doute savoir qui. Gabrielle la regarda blanchir encore plus. Elle devenait de la neige polie. Dans ses prunelles écarquillées, il crut voir des ombres passer. Elle s'était mise à pleurer, sans bruit. Elle se tordait les mains. Elle avait perdu au moins 5 centimètres. Cette mère croyait jusqu'alors au suicide de sa fille. Même s'il était incompréhensible, elle venait de comprendre soudain qui avait pu donner l'ordre de la tuer. Et Gabrielle savait que tous deux pensaient à la même personne et cette chose était pour elle insupportable. Un père ne pouvait pas donner l'ordre de tuer sa propre fille. À mon avis, ça doit être facilement prouvable.
200 000 francs, c'est tout ce que je peux faire.
Elle lui aurait crié « Vive Bakounine !» qu'il n'aurait pas été plus étonné. Elle réagissait comme l'ordure qu'elle était. Ça voulait dire que tout devait rester dans la famille et jamais n'apparaître au grand jour. Ça voulait dire qu'elle organisait un futur pour Gabrielle. Un futur qui sentait le suicide dans le dos. 20 plaques pour mon silence. J'ai donc raison.
200 000 d'abord. Après on verra, il faut me laisser du temps. J'ai des enfants qui ont encore besoin d'une mère.
Vous connaissez l'huîtrière à Pourville ?
Oui.
Ce soir, 18h. Je vous préviens, je ne serai pas seule. Pas d'embrouille.
C'est d'accord.
Bon, ça sent très mauvais, Cécile. Je vais te raccompagner à Dieppe. Tu vas passer toute la journée, toute la soirée, toute la nuit avec des phoques. Tu ne bouges pas, ta vie en dépend.
Non, mais je vais pas...
Cette fois-ci, il n'y a pas de mais, Cécile. Tu fermes ta petite gueule, tu obéis, ça te sauvera la vie. Il avait dû trouver l'accent parce qu'elle le dévisagea. Soudain, paniqué.
Tranquillement, sûr à présent qu'il n'était pas suivi, il reprit sa voiture et prit la direction de Pourville. Là, il gara le crapaud dans la bonne direction, sans fermer les portières, passa à la première et orienta les pneus pour un dégagement ultra rapide. Il coinça son Beretta sous sa veste, mit sa casquette et entra dans l'huîtrière. Il y avait 4 tables occupées. C'était bien. Les arrivants pourraient toujours supposer que c'était d'éventuels témoins. Il prit une bière, une croc, en souvenir des phoques. À 18h05, un type entra, une serviette en sky à la main, grand, mince, vêtu de sombre. Gabrielle, assis à une table, dégagea le Beretta et le glissa en équilibre sur son genou. Le type balaya la salle du regard et vint directement vers lui. Monsieur ?
Jérôme le prieur. Déplacez-vous d'un mètre sur votre gauche. Posez la valoche sur la table. Et mettez vos mains, comme si vous alliez prier.
Le type s'exécuta, rapidement, quand Gabrielle sortit le Beretta qu'il posa sur la table, dans l'angle mort, créé par la grande carcasse du sbire. D'une main, il ouvrit la mallette et vit les billets.
Je fais confiance. Beau billet, le compte doit y être.
Je ne sais pas, monsieur.
Vous ne savez pas ? C'est assez sage de votre part. Maintenant, je vais me lever, vous allez vous asseoir. Je vais vous payer une consommation. Un thé. Tiens, oui, un thé. Vous le boirez tranquillement. Non, c'est vous qui paierez les consommations. Et vous repartirez dans 10 minutes, environ.
Bien, monsieur.
Vous êtes stylé, vous. C'est un plaisir.
Je suis payé pour l'être.
Vous parlez trop. Faites gaffe.
Direction Petite Abbeville, Arc-la-Bataille et Paris. Il fouilla d'une main dans la serviette, vit les billets, les froissa, les huma. Il n'avait pas l'air d'être faux, ça l'étonnerait vraiment si les 20 plaques étaient là. Mais bon. Il conduisit doucement, l'œil aux aguets, le regard souvent braqué sur les rétroviseurs. Il étudiait chaque voiture, chaque grosse caisse qui arrivait de loin, en trombe. Il crut revoir plusieurs fois la même CX grise et une Honda rouge qui apparaissait et disparaissait au hasard de la circulation. Il était maintenant pratiquement sûr que dans ces 2 bagnoles, il y avait des gens pour lui, pensant à lui. Il y avait 2 hommes dans la CX et un seul conducteur dans la Honda. Fallait donc se débarrasser de la première assez vite. Il accéléra à fond et dès que ses poursuivants, roulant à toute blinde aussi, se placèrent à une 30aine de mètres derrière, il pila en traversant la chaussée, se garant sur le côté gauche, dans la montée d'un petit chemin goudronné. La CX passa en trombe, freinant elle aussi à petite vitesse, sur le côté droit de la Twingo. Gabrielle tira 2 coups au fusil de chasse. Dès que le chemin tourna sur la droite, Gabrielle freina à mort, prit son Beretta et sortit comme un diable de sa voiture. Protégé par la carrosserie, genoux pliés, son arme tenue à 2 mains comme on lui avait appris à l'armée, Il n'attendit pas deux secondes pour voir, à travers la poussière, le mufle de la Honda. Mais un type qui tient un volant et qui freine en même temps est vulnérable. Gabriel tira trois fois à travers le pare-brise, en direction du conducteur. Il s'approcha de la voiture et vit la tête renversée contre le dossier du siège, l'homme roux. Il n'avait pas son blouson vert, mais une chemise rose qui se teintait du sang coulant de son cou.
Gabriel regarda autour de lui. Le chemin bordait un terrain en pente. C'est alors qu'il comprit qu'il longeait le remblai de la voie ferrée. Retour à la case départ. Il ouvrit la porte de la Honda. Le type s'écroula par terre, un gros revolver à la main. Dans le coffre, il y avait quelques affaires insignifiantes, mais aussi deux gros cadenas de moto. Gabriel frémit. Certes, il n'en serait jamais sûr, mais ce type était sans doute celui qui s'était occupé de Bérénice et Frédéric. Il se pencha sur lui. Le cœur ne battait plus.
Gabriel observa les environs en marmonnant. Toujours personne. L'Oise déserte et désertifiée. Il grimpa le corps du type sur la voie et le coucha à travers des rails. La ligne n'était pas électrifiée. Il devait y avoir 2 ou 3 trains par jour. Ce n'était pas grave. On verrait bien dans le journal le lendemain.
Épilogue. 3 jours plus tard, Gabriel arrêta la Twingo près de l'entrée du petit aérodrome de Moisselle. Il entra sous la haute voûte surchauffée. 2 zincs démembrés, côte à côte, vomissaient leurs entrailles métalliques, rangées pièce par pièce, par ordre de démontage, alignées sur des bâches de toile cirée, sur un déjà ancien Morane souligné, un mécano en combinaison rouge vif s'affairait. Il avait le haut du corps entièrement plongé dans le moteur.
Oh, bordel, qu'est-ce que... Oh, Gabriel, manquait plus que ça.
On se sent vraiment accueilli, ça fait plaisir. Salut Raymond.
Salut Laurent Pan.
Gabriel ne pouvait plus prendre ça comme la pire insulte adressée à ceux qui aiment les avions. Pour la bonne raison qu'il n'avait pas son brevet de pilote. Il ne s'était jamais décidé à le passer, mais se promettait de s'y mettre. Une fois que son avion, le sien, sa chose, serait en état. Ce qui n'était pas de mal la veille. Il l'avait trouvé il y a 5 ans, dans une grange, à 20 km de Lérida. J'ai de quoi payer tout l'arbre à cam.
Tu as dévalisé le crédit agricole?
Tu te comportes vraiment comme le pire des profiteurs capitalistes.
Je travaille à prix coûtant, c'est tout. C'est normal. Et c'est syndical. Après, il me reste juste de quoi acheter mon paquet de gauloises.
Je croyais que t'étais aux gitanes.
Ah.
Gabriel monta dans le cockpit, s'assit sur le siège en lanière et contempla les commandes, les petits cadrans ronds et désuets comme de vieilles montres. Il y en avait encore 3 à changer. Risquer sa vie pour un anémomètre, c'était vraiment du pur style. Il fut tenté de mettre le casque en cuir qu'il avait trouvé à l'époque sous le siège et faire comme s'il appelait la tour de contrôle, mais il n'avait pas envie de subir les sarcasmes de Raymond. Alors, en silence, il mit les mains sur le manche à balai et ça y était. Il était dans le ciel d'Espagne, au-dessus de Saragosse. L'air était limpide, cristallin. Au-dessus de lui, le bleu du ciel était presque violet. Il allait, en toute impunité, balancer des bombes sur les fascistes. Enfin. Devenir nœud de jeune bambou, terme de l'homme. Bacho.
Vous venez d'écouter le 4e et dernier épisode de La Petite Écuyère à Cafeté, une adaptation du roman de Jean-Bernard Puy, avec Nathalie Bitan et Laurent Lévy, mise en œuvre de Didier Ruiz, création sonore d'Adrien Cordier, production La Compagnie des Hommes, enregistrée le 19 juin 2026 au Jardin des Berges à Lodève, lors d'une soirée organisée par Entrée Libre et Terre en Partage. prise de son et montage, William Verdier pour Radio Larzac.
Retrouvez Apéro Polar avec l'adaptation de La petite écuyère à cafeter de Jean-Bernard Puy en podcast sur radiolarzac.org, émission Polar, Vin et compagnie.
Tiens, là le poulpe.
Et d'ici, on dirait plutôt une murène.